Bonsoir à vous depuis Abidjan, Kinshasa ou N'Djamena et Kiabato et vous depuis le studio 9 de La Voix de l'Amérique où à votre avis se penche ce vendredi 22 septembre sur un rapport présenté hier par le PNUD sur les inégalités de revenus en Afrique. Cette publication souligne l'importance capitale de remédier aux disparités de revenus sur le continent pour atteindre les objectifs de développement durable. Alors à votre avis, pourquoi existe-t-il des inégalités de salaire en Afrique? Quels sont les secteurs les plus touchés par ces disparités? Que faut-il faire pour remédier à ce problème? Nous allons débattre jusqu'à 18h30 en temps universel. Pour participer, vous pouvez appeler, c'est un seul numéro, 001 202 205 26 33. 001 202 205 26 33. Rendez-vous également sur www.voafrique.com. Et avec nous pour en débattre tout au long de l'émission, Bekay Diarra, qui est donc un économiste sénégalais, qui est basé au bureau du PNUD au Mali, et puis également vous, les auditeurs. Bonsoir, Monsieur Diarra.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Oui, je vais bien, et vous-même?
Alors, je vais très bien. Ce rapport fait donc plus de 140 pages. Il a été fait sur une période d'un an, mi-2016 à mi-2017. Et vous apportez certains éclairages qui sont non des moindres, parce que vous avez fait des sélections selon les zones géographiques. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce rapport et les pays qui ont été touchés pour pouvoir le faire, ce rapport?
Oui, vous savez, la situation des populations vulnérables a été toujours un centre d'intérêt pour le programme des Nations Unies, parce que c'est celles-là même qui sont victimes d'inégalités et de pauvreté. Alors, lorsque l'agenda 2030 sur le développement durable a été lancé, l'attention de la communauté internationale a été attirée sur le fait que, même si on fait des efforts, même si l'Afrique, comme c'est le cas actuellement, réalise certaines performances économiques en termes de taux de croissance, il sera très difficile d'atteindre les objectifs du développement durable.
Alors, il sera très difficile d'atteindre les objectifs du développement durable. Nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez nous donner tous les détails. Mais avant ça, nous allons donner la parole à un auditeur. Il s'appelle Hassan. Bonsoir, Hassan. Hassan, est-ce que vous nous entendez? On va prendre Steve dans ces cas-là et revenir sur Hassan un peu plus tard. Bonsoir Steve, comment allez-vous?
Oui, bonsoir madame.
Alors nous vous écoutons sur le thème du jour. Oui, nous vous entendons très bien.
Ah ok. Moi je pense que la diversité économique, la diversité économique qui change nos continents, je dirais tout simplement que c'est issu de nos diverses potentialités, des atouts qui comprennent dans nos divers pays d'Afrique. Ah oui, parce que cela nous... Si nous prenons le cas de la Côte d'Ivoire, son économie est basée sur l'agriculture, notamment le café et le cacao. Mais si nous prenons le Bénin, nous voyons que les terres ne sont pas les mêmes. Où les gens critiquent seulement que le coton, le palmier, donc tout ça... qui fait que nous n'arrivons même pas à satisfaire le secteur qui est pris toujours le développement, c'est le secteur de la fonction publique. Oui, nous voyons certains fonctionnaires qui sont même dans le France CFA, mais qui n'ont même pas le même salaire. Les bas salariales ne sont même pas les mêmes.
Tout à fait.
En Côte d'Ivoire, les plus hauts, ils ont plus. Les salariés bouffent, c'est-à-dire ils aperçoivent beaucoup de salaires que les fonctionnaires béninois. Mais pourtant, nous sommes dans le même France CFA. C'est ça qui m'a aussi touché. En temps, j'ai demandé à un aîné, ils m'ont expliqué que c'est à cause de notre diversité économique, diversité, c'est-à-dire les terres ne sont pas les mêmes, les atouts aussi ne sont pas les mêmes. Donc c'est à cause de ça, moi aussi j'ai essayé de déduire à ce point pour dire que ce sont ces problèmes qui font que notre pays ou certains pays africains n'arrivent pas à connaître les efforts.
Alors Steve, beaucoup vous donnez des remarques très intéressantes. Avant qu'on puisse donner la parole à d'autres, parce que vous êtes nombreux à appeler, on va redonner la parole à notre économiste qui travaille donc au bureau de la PNUD depuis Bamako. Vous avez pu entendre les observations de Steve Boko qui nous appelait donc de la Côte d'Ivoire. Qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous envie de lui répondre? Puisque vous avez travaillé sur plusieurs pays différents, avec des problématiques différentes, avec des pays où la scolarisation des femmes, ou la participation des femmes en politique est souvent et même écartée, ce qui fait qu'on n'a pas forcément les mêmes résultats selon les pays. Comment vous avez travaillé ce rapport?
Effectivement, Steve a touché un point important, qui est celui de la quasi-spécialisation de nos pays dans un monoproduit, dans une économie à monoproduit. Ça, c'est un héritage colonial où le Sénégal, par exemple, avait l'arachide, la Guinée, la bauxite, la Côte d'Ivoire, le cacao. Ça fait que le pays ne diversifie pas son économie, mais était cantonné à un pays, à une économie qui exporte principalement de la matière première. Et ça, c'est une cause d'inégalité. Pourquoi? Parce que ça fait que ces secteurs monopolisent toute la population active, où tous les travailleurs sont concentrés dans ces secteurs, sans que la productivité, c'est-à-dire l'apport de chaque travailleur à la valeur ajoutée de ces secteurs, ne soit important. Alors, ça fait que les inégalités augmentent parce que les autres secteurs qui génèrent plus de revenus, l'industrie, les services, qui sur le plan international ont des produits sur le marché international qui sont mieux vendus parce que les cours des matières premières, vous savez, ne sont pas maîtrisés par les marchés émetteurs. Alors ça fait que la main-d'œuvre est concentrée quelque part, on ne diversifie pas l'économie et il n'y a pas de transfert de main-d'œuvre d'un secteur à l'autre. Les travailleurs sont cantonnés dans le secteur primaire qui génère des revenus faibles et du coup les inégalités de revenus augmentent, la pauvreté ne se réduit pas. Ça, d'un côté, c'est un point important que pose Yves, mais de l'autre côté, il y a des facteurs homogènes. Même si les pays sont hétérogènes, on trouve beaucoup de facteurs homogènes qui sont identiques à quasiment tous les pays.
Alors justement, vous avez fait des différences entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique australe. Est-ce que vous pouvez nous donner cet éclairage assez succinctement? Comme ça, on va pouvoir réagir également avec les auditeurs.
Ce qu'on constate, c'est par exemple dans les pays d'Afrique australe, ou du point de vue historique, du point de vue de la structuration de l'économie, les inégalités sont très importantes. En Afrique de l'Ouest, on trouve des niveaux d'inégalité qui sont un peu en deçà. Cela ne veut pas dire que les économies sont plus importantes, mais en fait, c'est du point de vue sectoriel. Les secteurs où la croissance est générée par une forte intensité de capital, c'est-à-dire les mines, les ressources naturelles comme le pétrole, sont les secteurs où les inégalités sont plus fortes. À l'inverse, les secteurs où il y a une forte intensité de main-d'œuvre, l'agriculture, certains sous-secteurs des services, là, les inégalités sont moins fortes.
Et alors, on va voir.
Sur le plan régional, on voit ces différences-là, mm-hmm. parce qu'on sait que l'Afrique centrale et l'Afrique australe sont mieux dotées en ressources naturelles que les autres parties de l'Afrique.
Nous y reviendrons par rapport aux ressources naturelles. On va donner la parole à Léo qui nous appelle, lui, de Tanzanie. Bonsoir, Léo.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez?
On vous entend parfaitement. Profitons-en.
Ok, moi je m'appelle Léo Cargo, je suis en Tanzanie, je suis d'origine burundaise. D'abord, moi aussi je ne vous entends pas, je ne vous capte pas bien. Je pense que vous pourriez d'abord me rappeler d'abord parce que mon poste est solitaire, c'est un.
Alors vous voulez qu'on vous rappelle?
Oui.
Ben, en attendant de vous rappeler, on va prendre un autre auditeur qui s'appelle Hassan. À tout à l'heure, Léo. Bonsoir, Hassan. Alors, on va prendre Bakary Keïta. Bonsoir, Bakary.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Je me porte très bien.
Et on vous entend très bien en plus. Alors, profitons-en. On vous écoute pour votre avis concernant le thème du jour. Comment vous expliquez les inégalités de salaire?
Bon, le thème du jour, quand même, touche vraiment énormément le Mali. Surtout quand on essaie de voir vraiment les classes, c'est-à-dire les traitements quand même sont vraiment inégaux quand je prends par exemple, c'est la classe quand même, c'est la couche enseignante vraiment qui en souffre beaucoup, surtout nous qui sommes quand même des enseignants de la base par exemple. Nous, quand on essaie de comparer nos salaires vraiment à ceux quand même qui sont au sommet, vraiment il y a un très grand fossé. Mais souvent même lors des grèves, on demandait à ce que nos salaires soient uniformisés avec les salaires de la CEDEAO. Le gouvernement nous a dit que vraiment les ressources vraiment ne sont pas les mêmes. Moi, je crois qu'on va toujours continuer vraiment à lutter. Parce que nous qui sommes quand même dans la base, c'est nous qui travaillons beaucoup. Mais le sommet, là, ils perçoivent beaucoup, mais vraiment leur travail, leur rentabilité vraiment est minime par rapport à nous. Nous sommes comme les ouvriers vraiment de l'éducation malienne, mais les salaires vraiment sont très, très bas.
Merci beaucoup, Brahima Doumbia, pour votre avis. Bakary Keïta, pardon. On va reprendre notre économiste qui travaille au bureau du PNUD depuis Bamako. Vous avez pu entendre cet avis d'un auditeur au Mali, et c'est ce qui est vraiment souligné dans le rapport, à savoir les petits salaires qui permettent pas de pouvoir augmenter vraiment les salaires, car ils développent pas forcément des secteurs porteurs et qui génèrent plus d'argent. C'est bien ce que vous disiez par rapport notamment à l'agriculture, qu'il fallait diversifier. Pouvez-vous préciser?
Exact. Ce que je disais, c'est que on part d'un constat que l'Afrique, depuis quelques années, réalise des taux de croissance quand même assez importants. En moyenne, on a vu l'Éthiopie 10%, d'autres pays 9%, le Sénégal plus de 6%, la Côte d'Ivoire 7%, en moyenne. Hein. Mais cette croissance ne réduit pas la pauvreté. Pourquoi? Parce qu'elle se réalise dans des secteurs justement à haute intensité de capital, c'est-à-dire les secteurs miniers, les secteurs pétroliers, ou des secteurs comme l'agriculture où la productivité est très faible. Et c'est ça le cœur du problème. Il faut renforcer et augmenter la productivité. Parce que quand vous augmentez la productivité, vous avez besoin de moins d'hommes, parce que moins de personnes peuvent produire plus de valeur ajoutée. Par exemple, si vous mécanisez l'agriculture, vous avez besoin de moins de bras, mais vous avez plus de valeur ajoutée. Alors, le fait d'investir dans l'agriculture...
Et c'est important de préciser, parce que les personnes peuvent penser que les machines vont remplacer les hommes et leur faire perdre des emplois, mais vous expliquez qu'il y a d'autres... D'une certaine manière, ça apporte d'autres emplois et ça amène vers d'autres corps de métier. C'est bien ça?
Voilà, c'est une vieille logique économique. Il y a un transfert de bras de l'agriculture vers l'industrie, mais en Afrique, il y a aussi d'autres secteurs émergents, comme les télécommunications, comme le commerce, comme le secteur financier.
Mais tous ces secteurs que vous citez demandent... Tous les secteurs que vous citez nécessitent quand même une formation. On ne peut pas passer d'agriculteur à
Exact. C'est pourquoi le rapport met l'accent d'abord sur l'éducation comme premier facteur de réduction des inégalités, ensuite développer la productivité dans le secteur agricole surtout, et puis développer des politiques de protection sociale.
Alors on va revenir sur les protections sociales dans quelques instants. On va donner la parole à Hassan que nous avions perdu tout à l'heure. Bonsoir Hassan. On a donc Archiduc Théodore, on a de nouveau perdu Hassan. Bonsoir.
Oui, bonsoir à tout le monde. Oui, bonsoir.
Comment allez-vous?
Ah ouais, je me porte comme un chat et ça marche bien.
Alors nous vous écoutons. Archiduc Théodore, oui, allez-y.
Pour moi, l'Afrique, de par l'Union africaine, n'est pas autonome. Quand on prend les actions pour la paix et la sécurité en Afrique, je pense que l'Union africaine est limitée par des moyens. Le sous-effectif de ses soldats en est une preuve. Et l'engagement n'y est pas. Généralement, on constate sur le terrain que les soldats de l'Union africaine qui partent pour la résolution d'un problème devant aboutir à la paix et à la sécurité, se permettent de mettre la violence au devant de tout. C'est comme si les soldats qu'on ramasse sur la liste sans aucune formation, sans aucune analyse psychologique, on les envoie sur le terrain. Finalement, ce sont ces soldats qui deviennent pour nous des problèmes difficilement gérables. Donc, l'Union africaine est très long, il doit être efficace de par l'engagement et des moyens mis en place pour le fonctionnement de son activité.
Écoutez, merci pour votre avis et on vous souhaite une excellente soirée. Brahima Doumbia, cette fois-ci, je vous appelle par votre nom, car j'ai appelé tout à l'heure un autre auditeur par votre nom. Bonsoir.
Effectivement, bonsoir à tous les auditeurs de la VOA. Je vous appelle depuis Sikasso, au Mali.
Bonne fête, parce que c'est la fête nationale aujourd'hui.
Effectivement, nous sommes en fête aujourd'hui. Voilà, concernant ce sujet, il faut le dire, c'est très pertinent. Si je pense à le sujet sur l'égalité de salaire, je pense que, surtout au Mali, ici, l'inégalité quand même du salaire se situe au niveau du secteur informel, si vous voulez. Surtout dans le domaine du gardiennage, comme je l'ai si bien dit. Imaginez que le SMIC soit à 40 000 francs et que des agents de la sécurité soient payés à 30 000 francs ou 35 000 francs. Et aussi, cette inégalité aussi se situe, si vous voulez, dans le domaine des ménages, si vous voulez, des bonnes en quelque sorte. Il y a des bonnes aussi ici au Mali, par exemple, qui sont payées à 7 500 ou 5 000 francs, si vous voulez. Alors que
5 000 francs le mois ou la semaine, le jour, 5 000 francs, quelle période?
5 000 francs le mois.
C'est très peu.
Certaines à 7 500 francs le mois, cela est très, très, très,
très,
très
faible.
Si vous voulez. Est très faible, si vous voulez. Voilà, ça c'est concernant les jeunes filles. Mais les hommes, les jeunes hommes, s'ils veulent travailler dans ce domaine-là, certains avoisinent les 10 000 francs ou les 15 000 francs. Imaginez, si vous devez passer une année entière à faire ce travail-là, combien allez-vous apporter à votre famille? Combien allez-vous économiser, si vous voulez? Je pense que c'est surtout la faiblesse des tests ou le manque de volonté de certains dirigeants d'appliquer les tests. Parce que aujourd'hui, il faut l'appeler, il y a des sanctions qui sont prévues, mais en réalité, aucune sanction n'est suivie, si vous voulez. Parce qu'on constate que la corruption y est. Il faudrait quand même que l'État s'implique pour que les gardiens, surtout les gardiens du Mali, puissent être dans des meilleures conditions pour qu'il y ait
une évolution, une augmentation des salaires. Merci beaucoup, Brahima Doumbia, pour votre appel. Excellent week-end à vous. On a également Sidiki qui souhaite participer et intervenir. Bonsoir. Sidiki, nous vous entendons pas. Bon, on reprendra Sidiki dans quelques instants. Je vais vous redonner la parole, Monsieur Diarra, je me mélange dans les noms. On a pu entendre plusieurs observations et ça revient pas mal, le manque de volonté des dirigeants. Par rapport à ce rapport, comment vous avez appréhendé et comment vous êtes rentré en contact avec les différents États?
Ah, c'est l'objectif principal, justement, ce serait de... D'abord de donner une information économique basée sur les chiffres, une information pertinente et fiable qui permette aux décideurs de prendre les bons choix, de faire les bons choix pour justement adresser, comme on dit en anglais, cette question des inégalités. Donc, il y a le manque de volonté et on peut le cerner difficilement.
D'accord.
Ce que je pourrais dire, c'est qu'il n'y a pas eu les meilleurs choix durant les 10 dernières années, comme je venais de le dire. Le choix sectoriel, le fait que nos États, une fois qu'on découvre une ressource naturelle très chère qu'on peut vendre sur le marché mondial, ne diversifie pas l'économie, ça c'est pas un bon choix. Le fait d'avoir négligé les politiques sociales, mon ami aujourd'hui tout à l'heure a parlé du secteur informel. Il y a un grand besoin de protection sociale et puis de formation, justement. Et le rapport, justement, quand le rapport dit qu'il faut mettre l'accent sur l'éducation, c'est justement pour que des secteurs comme les sous-secteurs qui composent l'informel puissent bénéficier d'une formation professionnelle technique qui leur donne une qualification pouvant leur permettre de se structurer. C'est un secteur qui a besoin de structuration, c'est un secteur qui a besoin aussi de politique sociale. Je parle de la pénibilité, par exemple, la pénibilité des femmes dans le secteur informel. Ça, il faut une couverture médicale. Il faut
alors, on va revenir sur la couverture médicale parce que c'est vraiment important et dans le rapport, c'est très bien détaillé. Avant cela, on va donner la parole à un auditeur qui s'appelle Valentin. Bonsoir, Valentin.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va, je vais très bien.
Quel est votre avis sur le thème du jour?
Ok, en fait, madame, je disais l'inégalité des salaires en Afrique. En Afrique subsaharienne, je vois les torts beaucoup plus que je donne à nos dirigeants actuels. Ils n'ont pas la volonté de cette répartition pour la population. Car aujourd'hui, tu envoies quelqu'un au terrain de surveiller les gens, ou bien dans un projet pétrolier ou bien minière, tu envoies les superviseurs pour aller superviser les gens. On te dit d'aller payer les ouvriers à 50 000, on vous donne la moitié. 25 000 francs. Ah, nous les innocents, on doit toujours accuser les dirigeants, on va dire non, c'est eux qui ont à mesure de ça. Or, ils ont envoyé les superviseurs avec les 50 000 francs pour aller payer les ouvriers. Par manque de contrôle, ils viennent payer les 25 000 francs. Et d'autant plus, moi, je préfère des salaires minimes, même s'il y a des inégalités, il faut que ces salaires couler régulièrement à chaque fin de mois que ça coule.
Que ce soit vraiment fixe et régulé, c'est bien ça? Vous voulez que les salaires soient vraiment fixés à la base et que ça ne soit pas fluctueux?
Voilà, on peut te proposer de te payer 100 000, 250 000 francs par mois, et alors que tu fais l'arrêt de 10 mois sans toutefois rien perçu. Donc, ça crée trop de problèmes. Je prends l'exemple de nous, les étudiants tchadiennes. Actuellement, on nous a proposé le bourse de 30 000 francs par mois. On fait les arrêts de 10 mois, de 6 mois avec le gouvernement.
C'est
et on
énorme.
Manifeste, ça nous perturbe le cours. Oui, ça nous perturbe le cours. J'espère qu'il faut que les dirigeants africains puissent prendre conscience de cette inégalité de répartition. Parce que ça cause beaucoup de problèmes dans les secteurs privés et publics, même sur le plan éducatif.
Merci beaucoup, Guillaume B. Valentin. Merci beaucoup pour votre intervention. Excellente soirée à vous. Je vous redonne la parole, Monsieur Diarra. Là, on a pu encore entendre un autre avis. Et on n'a pas pu développer cette affaire de droit social. C'est très important,
c'est
la couverture sociale. Car
exactement.
Dans le secteur informel, on n'a souvent pas de protection sociale. En quoi cela est si
pas
important pour que les auditeurs puissent
pas
aussi l'entendre?
Voilà. C'est un secteur... En fait, tous
et je vous demander d'être concis parce qu'il nous reste une minute. Vous dites...
Voilà, une minute.
Oui.
Donc c'est un secteur qui a besoin d'être structuré. Pour qu'elle soit structurée, il y a un besoin de formation professionnelle déjà pour donner une qualification non seulement qui permet d'avoir un emploi décent. L'emploi décent, c'est très important, permettant d'avoir un revenu décent, mais aussi qui permet d'avoir un emploi qui est reconnu.
Et une couverture santé aussi, c'est important. Une couverture santé, une assurance.
Donc, il faut pouvoir reconnaître les gens, il faut pouvoir leur donner un diplôme qui est reconnu, un emploi qui est fixe et une rémunération décente. Et c'est dans cette rémunération qu'on prévoit même la protection sociale.
Une protection sociale fiable, parce que c'est souvent ce qui inquiète sur le continent. Est-ce que ça sera des protections sociales fiables, avec de vraies couvertures,
oui,
etc.
Lorsque c'est formalisé, lorsque c'est structuré, ça, c'est fiable. Pourquoi? Parce qu'il y a dans les deux sens. Il y a la protection sociale qui protège le travailleur, qui lui donne les indemnités qui accompagnent le salaire. Mais aussi, il y a la politique sociale qui lui permet d'avoir un accès aux services sociaux de base. Et c'est le plus important. Parce que la pauvreté aujourd'hui, elle est, en Afrique, est monétaire et non monétaire. Elle est monétaire parce que, justement, les revenus sont faibles. Mais elle est non monétaire parce que ça empêche aussi les bas salariés d'avoir accès à la santé et à l'éducation.
Et ça sera le mot de car on doit rendre l'antenne dans une trentaine de secondes. Je rappelle que vous êtes Bakay Diarra et que vous êtes un économiste du bureau du PNUD. Merci infiniment pour votre participation. Merci également à tous nos invités, à l'ensemble de l'équipe technique. Merci à vous. Et vous pouvez retrouver l'ensemble de nos émissions sur le site www.voaafrique.com. Excellente soirée à vous et très bon week-end.